actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des parutions en histoire ce matin avec deux ouvrages récents d'histoire sensible. Odeurs et sentiments au programme de la Fabrique ce matin. Pour commencer, deux ouvrages. Celui de Robert Mechimblé sur la civilisation des odeurs à l'époque moderne qui vient de paraître aux belles lettres et celui de Sarah Ray sur le pouvoir des larmes à l'époque antique, dans la Rome antique même, paru chez Anna Mauzin. Puis Catherine de Copé nous parlera dans sa chronique La Fabrique de l'eau, dans laquelle elle s'intéresse à la façon dont les groupes sociaux sont nommés par d'autres, nous parlera des Rohingyas. Enfin, nous retrouverons avec plaisir, pour finir, notre séquence C'était à la une, dans laquelle nous mettons en avant un grand texte de presse tiré du site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, le procès de Landru, vu par l'écrivain et journaliste Colette, en hommage à Daniel Dardieu, qui interpréta la première victime de Landru dans le grand film de Claude Chabrol en 1963.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie, leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Robert Mechimblé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous qui êtes toujours en tant qu'historien entre la France et les États-Unis, vous venez de publier aux éditions des Belles Lettres un nouveau livre, La civilisation des odeurs entre le 16e et le 19e siècle. Vous êtes un grand spécialiste de ce qu'on appelait dans le temps l'histoire des mentalités. Aujourd'hui, on appelle ça l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions. Vous avez travaillé, entre autres, sur la question des sorcières, sur la question du diable, sur les questions de violence ou de sexualité sous l'Ancien Régime, et donc vous nous offrez une civilisation des odeurs. Évidemment, le premier mot, le premier nom qui vient dans cette civilisation des odeurs, qui ouvre le livre, c'est celui de Norbert Elias, donc celui qui avait inventé avant la Seconde Guerre mondiale, en tant que sociologue et anthropologue de l'histoire, avait inventé ce terme de civilisation, processus de civilisation qui, selon lui, montrait que, au fur et à mesure du temps, on éloignait la guerre de notre quotidien et on civiliser nos mœurs d'une certaine façon, et vous avez réfléchi à cette question des odeurs dans le cadre de ce travail de Norbert Elias, qui évidemment date et qu'on peut critiquer aujourd'hui.
Oui, c'est en même temps un hommage à Norbert Elias que j'aime beaucoup, mais évidemment la façon dont il travaille est relativement différente de la mienne, non seulement parce que des décennies se sont passées, mais aussi parce que sa vision est celle d'un homme des Lumières, c'est-à-dire d'un progrès continu de l'humanité, en particulier de l'Occident, etc. Et je ne trouve pas la même chose, mais ce n'est que une sorte de petite addition à une civilisation des mœurs, de regarder comment fonctionne un des sens humains, qu'on considérait comme le plus faible de tous jusqu'à une époque très récente.
Alors, l'odorat, évidemment, c'est ce sens, et les odeurs sont au centre de votre travail, ce dernier travail paru aux éditions des Belles Lettres, Robert Mechimblé. Pourquoi ajouter aussi aux travaux d'autres qui ont travaillé sur ces questions-là, qui s'appellent Georges Viegarello ou Alain Corbin avec le miasme et la jonquille? Qu'est-ce que la documentation que vous mobilisez nuance des évolutions ou des visions qu'avaient ces autres historiens sur cette question-là?
Elle permet de voir qu'il y a des périodes totalement inconnues. Ces deux historiens se sont placés, surtout Corbin, à partir du XVIIIe siècle. Et moi, je me place nettement plus haut. Le point de départ de la civilisation des odeurs, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est un monde puant, horriblement puant. Ça, ce n'est pas une nouveauté, on le sait depuis longtemps, en particulier dans les villes. Mais c'est aussi la manière dont les contemporains ont réagi à ces puanteurs ou à des dangers. Et en fait, il y a eu deux révolutions des odeurs.
Une au XVIe siècle.
Une au XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, voilà. Et une autre vers le milieu du XVIIIe siècle, dont Corbin a saisi la fin. La première révolution des odeurs est l'invention, non pas du parfumeur, mais du parfumeur prophylactique.
C'est-à-dire une sorte de barrière que l'on met autour de
voilà.
soi pour se protéger des mauvaises odeurs et donc de ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire la peste en particulier, tout un tas d'autres maladies.
Exactement. En réalité, il s'est passé quelque chose de fondamental qui tient à l'histoire de la médecine, pour être précis. C'est la récurrence de la peste en Europe à partir du XVIe siècle, surtout de la seconde moitié du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe.
La dernière grande peste étant celle de Marseille en 1720.
1720, c'est ça. Donc, dans cette période, c'est un fléau calamiteux, la peste. On ne sait pas comment lutter contre lui.
Et on ne sait pas comment il se transmet.
C'est-à-dire que les médecins ont une théorie, mais la théorie en question est une théorie particulière, c'est une vapeur venimeuse de l'air. Mmh. C'est-à-dire c'est un air corrompu. Mmh. En gros, j'ai appelé ça l'haleine du diable. C'est-à-dire, c'est le démon qui, autorisé par Dieu, envoie le glaive pesteux de Dieu sur la terre, et quiconque en contact avec l'air extérieur pesteux va être malade et mourir.
Donc on se barricade.
On se barricade et on invente une cuirasse odorante. C'est l'invention des parfums, en fait, mais des parfums particuliers.
Le musc.
La civette et l'ambre.
Donc des parfums animaux.
Parfums animaux, que l'on appelle d'ailleurs techniquement des parfums excrémentiels animaux. Les deux premiers, musc et civette, sont extraits de glandes sexuelles d'animaux. Et le troisième, de l'estomac des cachalots. Ce sont des parfums très très forts, très puissants, dont on a perdu aujourd'hui presque la trace.
Bon, vous dites à la fin de votre livre qu'ils reviennent un peu, mais de manière un peu par la bande, pourrait-on dire. Alors, il y a cette cuirasse que l'on se fabrique par ces odeurs au XVIe, XVIIe siècle, mais il y a une autre façon de se protéger, c'est de se protéger non seulement de la peste, mais de tout ce qui empeste la ville en particulier du XVIe et du XVIIe siècle. Alors vous nous racontez ce que l'on sait déjà, plus ou moins, c'est-à-dire effectivement ces excréments qui coulent dans les caniveaux de cette ville du XVIe et du XVIIe siècle, ces odeurs pestilentielles. Et il faut donc se protéger aussi de ces odeurs-là.
Tout à fait. Et les endroits terribles sont partout dans la ville. Par exemple, ils sont au centre de Paris, au XVIIIe siècle. Dans l'île de la Cité, on ne respire pas parce qu'il y a les bateaux dépotoirs d'ordures qui passent sur la Seine et qui envoient des vapeurs corrosives. Les voisins se plaignent que ça détruit même le teint des glaces, etc. Et il y a une véritable pollution qui n'est pas encore tout à fait industrielle, mais qui vient des métiers sales.
Alors, il y a évidemment cette question-là, et puis il y a question de ces excréments humains ou animaux qui sont présents partout dans la ville, dites-vous. Et ces excréments sont à la fois valorisés et dévalorisés. Ils sont valorisés dans un certain type de littérature, qu'on pourrait appeler rabelaisienne, par exemple, dévalorisés, évidemment, dans certains milieux, et ils marquent aussi la société en classe. Il y a ceux qui peuvent s'échapper de cet excrémentiel et ceux qui sont malheureusement contraints d'y vivre.
Tout à fait. C'est l'invention de la maison de campagne pour les bourgeois parisiens, mais aussi du château de campagne, parce que Versailles ou Paris sont des lieux excrémentiels, terribles. On les fuit dès que c'est possible, effectivement.
Il y a, dites-vous, donc pourtant une préoccupation des édiles municipaux de régler ces questions-là, mais ça n'est jamais appliqué. Et vous avez un de vos collègues qui avait travaillé sur un édit royal du 25 novembre 1539, donc au tout début de la période qui est la vôtre, le 16e siècle, donc, et qui avait déduit de cet édit royal qu'au bout du compte, eh bien, il y avait une amélioration, pourrait-on dire, de cet air parisien en particulier. Vous dites qu'il n'en est rien parce que la plupart de ces édits ne sont pas appliqués, qu'il y avait déjà des édits ou des ordonnances de 1374, qui ordonnait déjà, par exemple, la création de latrines à l'intérieur des maisons et que ça n'avait pas été fait. Il fallait le réitérer très régulièrement pour pouvoir éviter justement la propagation des maladies.
Tout à fait. Et rien n'a vraiment changé avant la création du tout à l'égout, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. La lutte est en fait une lutte non pas contre l'odeur, parce qu'en réalité, les odeurs excrémentielles ne gênent pas beaucoup. C'est plutôt...
C'est un des apports de votre travail, c'est de se dire que les gens vivaient au milieu de ces odeurs-là.
Ils vivent et on dirait même qu'ils aiment, en un certain sens. Ce n'est pas du tout une société qui pourrait être analysée par Freud ou par ses disciples. Il n'y a pas de refoulement anal, il n'y a pas de refoulement concernant la matière joyeuse. C'est pour ça qu'il y a une...
On appelle la matière joyeuse chez Rabelais.
Il y a une énorme littérature là-dessus et elle ne commence vraiment à être combattue qu'à partir de 1620-1630.
Le dernier texte, dites-vous, qui rappelle cette longue littérature autour de l'excrément, c'est en 1616, Le moyen de parvenir de François Béroald de Virville.
Qui est remarquable.
Qui est un texte donc d'histoire rabelaisienne, pourrait-on dire.
C'est un texte absolument extraordinaire, saturé de la culture excrémentielle. Mais qui prouve que cette culture est celle des classes dominantes. C'est pas une culture populaire à l'époque. Elle deviendra, quand elle sera refoulée, une culture des classes populaires.
Alors, vous insistez dans plusieurs de vos chapitres sur aussi des classifications qu'on appellerait aujourd'hui genrées, de genre dans la société de l'Ancien Régime, autour de cette question des odeurs, cette barricade d'odeurs très masculines, très fortes, de musc, d'ambre, qui sont souvent privilégiées par les hommes dans cette période donc du 16e, 17e siècle, mais aussi ce rejet de l'odeur des femmes, dites-vous. Il y a une série de France Culture cette semaine qui a été beaucoup de succès sur les règles. Vous dites effectivement que la question menstruelle est quelque chose de très fort pour pouvoir repousser les femmes, considérer qu'elles ont une odeur particulière et que cette odeur pourrait être aussi celle du diable, Robert Mouchamet.
C'est une odeur que l'on considère à l'époque comme destructrice. Dans la civilisation chrétienne, effectivement, elle est liée au diable, mais elle vient des Grecs. Elle vient de Pline l'Ancien. Les règles féminines détruisent. Et en réalité, le diable est au fond celui qui est contre lequel on lutte. Ce n'est pas les odeurs, c'est le fait que le diable est considéré comme étant dans les excréments, dans les restes, dans les déchets, et dans le corps des femmes. Donc on lutte contre le démon dans une société, une civilisation catholique ou protestante, dans une civilisation chrétienne. Et la femme est considérée par les médecins comme puante naturellement.
La puanteur féminine, dites-vous, a hanté l'imaginaire culturel européen tout au long du XVIe, XVIIe siècle.
Il y a une gravure d'ailleurs dans laquelle un homme sardonique regarde une femme en se pinçant le nez alors qu'elle est extrêmement jolie, parée, entourée de fleurs. Oui, la femme est considérée comme extrêmement malodorante. À tout âge, y compris pour les poètes de la Pléiade, parce qu'ils n'ont pas seulement raconté que les femmes étaient délicieuses, ils ont, dans d'autres œuvres qu'on a cachées...
Chez Clément Marot ou chez Ronsard.
Ou chez Ronsard. Dans des œuvres qu'on n'a pas données dans nos écoles, ils racontent que les femmes puent terriblement, et les médecins encore plus, que la femme est véritablement une infection ambulante.
Mais qu'est-ce qui explique justement cette deuxième révolution sur laquelle vous insistez, qui est cette révolution des années 1750, qui va transformer, selon vous, Robert Mouchamblé, le regard que l'on porte sur les humeurs, sur les odeurs, dans cette société des Lumières? On va non plus privilégier le musc, l'ambre, la civette, mais on va privilégier des odeurs florales, des odeurs de fruits, dans une nouvelle conception, semble-t-il, que sont les odeurs des hommes et des femmes.
Surtout des femmes, car en fait, il s'agit d'un sous-produit des Lumières. Ce n'est pas simplement des idées. Ce sont des pratiques. Tout est en train de changer à partir du milieu du XVIIe siècle, au point de vue théologique, au point de vue philosophique, au point de vue des idées, bien sûr, c'est Descartes, etc. Mais ça change surtout en médecine. Et l'idée de la femme puante, mauvaise, méchante, de la sorcière, de la vieille femme qui est encore plus puante que la jeune femme, qui est carrément liée au démon, elle pue presque autant que lui, change formidablement dans le courant du XVIIIe siècle. C'est une révolution silencieuse, qui n'est pas une révolution des idées, mais une révolution des sensibilités. C'est-à-dire que les hommes apprennent peu à peu à ne plus rejeter totalement l'odeur féminine et on n'a plus besoin des parfums animaux. Ils disparaissent.
Oui, d'ailleurs, vous dites que dans un traité comme le traité des odeurs d'Antoine Ornault, qui est dit dans De Jean en 1764, eh bien, ce traité marque, dites-vous, la déchéance de l'ambre et du musc qui disparaît carrément de la fabrication des parfums.
Au XVIIIe siècle, on ne l'utilise plus. Ces choses disparaissent pour reparaître néanmoins sous Napoléon. Un petit peu sous Napoléon et peut-être à d'autres périodes ultérieures. J'ai lié directement ces parfums au machisme, à l'homme, à une civilisation guerrière et conquérante, à cheval, entourée de cuir qui était odorant. Tous les cuirs, par exemple les gants, étaient enduits de ces substances. Et au XVIIIe siècle, les cuirs, les gants ne sont plus odorants. Et les femmes...
Quand vous dites enduits, c'est qu'on les enduisait véritablement de ces substances pour se protéger contre les maladies.
Exactement. Tous les cuirs, la selle d'un cheval, les bottes, le pourpoint en cuir, tout était odorant pour chasser le démon. En réalité, les parfumeurs du XVIIe siècle, le grand siècle du musc, étaient des gantiers parfumeurs. J'ai regardé leurs inventaires après décès. Ils étaient des spécialistes de la protection odorante. Ce n'est plus nécessaire et au XVIIIe siècle, eh bien, ce sont les fleurs de grâce et les parfumeurs, les vrais parfumeurs, qui s'individualisent pour offrir des senteurs de ce genre, floral, fruité, aux femmes, mais aussi aux hommes. Si bien que les hommes du XVIIIe siècle sont, pour un esprit américain, très efféminé en Europe et en France.
Oui, et vous dites aussi, et c'est le cœur de votre travail, de cette civilisation des odeurs, Robert Muchimblet, que les odeurs sont sociales.
Tout à fait.
Que les Asiatiques nous regardent comme puant le beurre.
Absolument.
Et que aujourd'hui, effectivement, on peut avoir des visions sociales de ce que sont les odeurs, surtout dans une société désodorisée, dites-vous, comme la nôtre, et avec la nécessité, à un moment ou à un autre, de la réodoriser, pourrait-on dire, en favorisant tel ou tel parfum que l'on va mettre et qui va nous permettre d'avoir une vie sociale, Robert Muchimblet.
Oui, parce que l'odorat est le seul sens que l'on puisse culturellement modifier, travailler. Par exemple, les anthropologues savent très bien qu'il y a des sociétés françaises de l'ail. En Provence ou en Gascogne, encore au XXe siècle, et que les jeunes hommes ont des odeurs particulières pour se trouver près des jeunes filles qui ont d'autres odeurs, mais ces odeurs fonctionnent comme des codes à l'intérieur d'une société. Elles permettent de distinguer les sexes, les catégories sociales, les âges, etc. Donc l'odorat est formidable. Les Américains ont découvert en 2014 que ce sens, qui était théoriquement limité à 10 000 possibilités pour un nez de parfumeur, en fait, pouvait, chez chaque être humain, permettre d'identifier 1 000 milliards et plus d'odeurs.
C'est formidable. Alors vous dites que c'est une vision un peu contestée, certains ont dit ça.
C'est contesté, effectivement.
C'est l'université Rockefeller qui l'a dit à New York City, mais effectivement, il y a un débat chez les scientifiques, mais en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de capacités olfactives
qu'on ne le croyait. C'est même sans doute un des sens les plus importants de l'être humain, parce qu'il a deux missions, vous permettre de survivre en repérant le poison avant de l'avoir dans la bouche, avant le goût, et vous permettre de constituer le couple pour faire des enfants et pour continuer la race humaine, en d'autres termes. Et l'odorat est très simple, il code automatiquement, on ne peut pas travailler sur lui directement, il code automatiquement bon ou mauvais. Il est très simple, donc toute société peut décider de rendre quelque chose bon ou mauvais, par exemple l'excrément enfantin. Il faut 5 à 8 ans pour que l'enfant cesse de considérer ses excréments comme agréables. Mais on le fait dans nos sociétés.
Et vous expliquez très bien qu'on peut, en tant qu'historien, et c'est cela qui est intéressant, trouver dans des documents, comme Arlette Farge trouve des sentiments dans certains documents du XVIIIe siècle, on peut trouver des odeurs dans ces documents. On peut entendre des cris, dit Arlette Farge, on peut entendre les voix dans des documents qui sont pourtant écrits. Eh bien, on peut aussi trouver des odeurs et les comprendre, et comprendre le système de référence de ceux qui ont écrit sur ces odeurs.
Absolument. C'est extrêmement clair qu'il est possible de sentir le passé. Simplement, on n'a pas voulu jusqu'à présent. Les sources sont innombrables.
Oui, Alain Corbin l'a fait.
Alain Corbin l'a fait, mais pour une période immobile postérieure, c'est-à-dire pour le phénomène floral, le dernier, qui est en train de changer sous nos yeux, parce qu'il se passe des choses à l'extrême début du XXIe siècle. Mais on ne l'a pas systématiquement fait pour les périodes antérieures. Alors que beaucoup de ces choses ont des constantes. Ce que je raconte pour le XVIe ou le XVIIe existe en Grèce ancienne. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes occidentaux socioculturels très profonds.
Mais qui tiennent aussi à la vision d'une médecine qui a perduré dans son être pendant plusieurs dizaines de siècles.
Exactement.
Puisque c'était la médecine galénique ou hippocratique qui continuait justement
jusqu'à
la veille de la Révolution française.
Justement, il se passe des modifications médicales dans le courant du XVIIIe siècle.
Oui.
Et c'est en même temps que l'odeur est en train de changer de statut.
Merci beaucoup Robert Muchin-Blé pour être venu au micro de la Fabrique de l'Histoire présenter votre dernier ouvrage, donc La civilisation des odeurs, qui vient tout juste de sortir aux éditions des Belles-Lettres.
Merci à vous.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
On peut sentir le passé, nous dit Robert Muchin-Blé. Est-ce qu'on peut voir les larmes couler? C'est ce que nous allons voir dans un instant. En tout cas, on les a vues couler hier, lors d'une surprise, pourrait-on dire, un discours de départ du préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Cormet, qui a été démis de ses fonctions après l'histoire de l'assassinat de deux jeunes filles tuées à Marseille par un ressortissant qui avait vécu, tunisien qui avait vécu longtemps à Lyon. Il a été considéré par le gouvernement comme responsable de ce qui s'était passé, même s'il n'y était a priori pour rien. Et hier, dans son discours, les larmes ont coulé.
Ma première pensée va vers les victimes qui ont été sauvagement assassinées à Marseille. Je partage la douleur des parents, des proches, des amis. Je la partage en restant à ma place, dans la sincérité du cœur. Dans cette émotion, qui normalement, j'en suis désolé, ne s'étale pas au public. Dans l'exercice de la responsabilité que m'a accordé le gouvernement, ma vie préfectorale s'achève sous vos yeux. Un de mes aïeux a été un hussard noir de la République. Moi-même, j'ai été boursier de la République. C'est donc en conviction et en reconnaissance que j'ai servi.
Il a servi la République, donc c'était le préfet de Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Comé, lors de son départ donc de son poste, après avoir été démis de ses fonctions par le gouvernement. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de commencer avec vous, Sarah Rey, votre travail sur les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité, aux éditions Anna Mosa. Il est assez rare de voir un responsable de l'État pleurer devant des caméras. Et vous nous racontez qu'il n'y avait pas de caméra à Rome, bien évidemment, mais qu'il était, il n'était pas rare de voir un responsable de l'État pleurer, en l'occurrence à Rome.
Non, alors merci de votre invitation, mais en effet, beaucoup d'hommes politiques romains, d'orateurs pleuraient, à la fois donc dans les procès et dans certaines assemblées politiques. Et l'art oratoire les incitait à le faire. Il y avait donc toute une place réservée à l'émotion dans les discours, donc dans le une place faite au pathos ou à l'adfectus. Donc l'orateur avait toute l'attitude de pleurer devant son auditoire.
Il peut pleurer, il peut faire pleurer aussi. Vous dites qu'il y a par exemple chez Cicéron une mécanique des larmes.
Oui, on pleure si possible pour justement attendrir par exemple lors d'un procès les juges. Pour faire comprendre que la situation de l'accusé qu'on défend est tout à fait terrible. Et ensuite, on pleure aussi pour convaincre, par exemple, une assemblée de soldats de suivre le chef qui prononce le discours jusqu'au bout.
C'est par exemple le cas de César qui pleure. Alors c'est curieux, il pleure après avoir passé le Rubicon en 49.
Alors,
Il dit qu'il a pleuré avant, mais en fait il a pleuré après, visiblement. Enfin, en tout cas, je crois que c'est Svetone qui le raconte. Pour là aussi, en déchirant ses vêtements, pour émouvoir ses soldats vis-à-vis de l'acte qu'il était en train d'accomplir, un acte de transgression, dites-vous, Sarah Rey.
Oui, la traversée du Rubicon, c'était absolument illégal. Et César se défend d'avoir fait un discours après cet acte terrible. N'empêche, d'autres sources, notamment Suétone, disent que c'est du mauvais côté du Rubicon, une fois le mal fait, que les larmes de César ont coulé. Parce que voilà, il s'agissait de convaincre ses soldats d'aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à Rome, c'est-à-dire donc de se mettre extrêmement en danger. Et cette scène du Rubicon, on voit que dans les péplums, elle n'est pas du tout rendue comme les sources antiques la racontent. César n'est pas le moins du monde affecté. Par exemple, dans la série Rome, on voit un César tout à fait sûr de lui, sûr de son geste. En fait, il avançait sur des sables mouvants.
Oui, et ce même César avait pleuré bien plus tôt lorsqu'il se trouvait à Gadès, en Espagne. Oui. Il pleurait, c'était au début des années 60, dites-vous, Sarah Rey, dans votre livre sur les larmes de Rome, il pleurait face à la statue d'un grand conquérant, d'Alexandre, et il pleurait sur lui-même d'une certaine façon. C'est-à-dire, il n'était pas à la hauteur d'Alexandre, puisqu'à son âge, il n'était pas parvenu à obtenir une telle conquête que celle d'Alexandre.
C'est en effet une belle image qu'on trouve là encore chez Suétone, d'un jeune Jules César, qui a une petite trentaine d'années, et qui se dit qu'il n'a absolument rien fait à l'âge où Alexandre avait déjà conquis un vaste empire. Mais ces larmes-là, il faut aussi les comprendre dans la mesure où Pompée, le rival de César, voulait déjà s'assimiler à Alexandre le Grand, donc il y avait une espèce de rivalité par rapport à ce modèle d'Alexandre. Et on sait que Alexandre lui-même avait pleuré sur l'infinité des mondes à conquérir. Donc finalement, on a des stratifications de larmes. Tout le monde se copie et tout le monde essaye de rivaliser en sanglots.
Alors il y a aussi, à propos de ce même César, ceux qui lui sont soumis, comme les Éduins et leur chef, Diviciacos, que l'on retrouve d'ailleurs dans le volume de l'histoire dessinée de la France qui vient de sortir, ou qui va sortir bientôt, de Jean-Louis Bruno, ce Diviciacos qui s'effondre en larmes aux pieds de César pour défendre son peuple, les Éduins, alliés de Rome. Et tout compte fait, César attend cela de ceux qui sont sous ses ordres. Il attend des larmes, il attend une émotion sincère. Et quand elles ne viennent pas, ces larmes, il en est fort mécontent.
Alors, mécontent, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité, quantité d'ambassades s'accompagnent de larmes. On attend que les ambassadeurs, les légats de tel ou tel peuple ou de telle ou telle cité pleurent devant plus puissant qu'eux. Mmh. Et donc César, pendant sa conquête du territoire gaulois, rencontre beaucoup d'émissaires de peuples gaulois, notamment donc des Éduins. Et les Éduins sont de longue date des partenaires de Rome. Donc là, on sait que Diviciacos sait quoi dire et sait comment pleurer devant César, tandis que d'autres représentants d'autres peuples, eux, peut-être...
Les Helvètes, par exemple.
Alors, les Helvètes, bon, eux, on les renvoie chez eux, on leur dit de reconstruire les cités qu'ils ont détruites. Donc, il faut un gros, gros travail de... Voilà. Beaucoup de travaux publics en vue, mais... Les Séquanes qui ont une tristesse muette, dit César, et il ne comprend pas pourquoi ces larmes ne s'accompagnent pas de discours de négociation.
Oui, il y a vraiment chez César et chez ses successeurs quelque chose de très fort autour de cette question des larmes, expliquez-vous, dans l'exercice du pouvoir. Parce que il se vante d'être enclin à la pitié en tant que défenseur des populares, il dit ses opposants, enfin le camp d'en face, les optimates ont été sans cœur lorsqu'ils ont détruit quelques dizaines d'années plus tôt Carthage, lorsqu'ils ont détruit des cités comme celle-ci, et donc il y a chez lui cette idée de à la fois de jouer de la pitié, de jouer des larmes, de les faire couler soi-même ou de les faire couler chez d'autres. Et cela conduit évidemment à celui qui lui succède, ça conduit à Auguste et à la fameuse clémence d'Auguste, dont vous dites qu'effectivement c'est un mode de gestion du pouvoir, de l'émotion impériale, une émotion que l'on exprime soi-même ou que l'on exprime au nom des autres, en l'occurrence Sarare.
Oui, la clémence, c'est un slogan politique chez les Romains. Alors les populares veulent se dire plus cléments que leurs adversaires optimates, mais c'est encore à prouver. Mais c'est vrai que à partir de l'instauration du principat, on va attendre de l'empereur que justement il soit clément avec ses anciens ennemis, avec éventuellement ses mauvais sujets, et qu'il tende l'oreille finalement à ceux qui lui imploreraient une grâce.
Et ainsi, en faisant cela, il dit aussi la difficulté d'un homme d'être à la fois un homme et un dieu, d'être à la fois un homme qui doit exercer le pouvoir et marque la difficulté de régner.
Oui, on a aussi des sources assez étonnantes qui disent que il arrive que certains empereurs, certains princes pleurent sur la difficulté de leur fonction, finalement. On a ça pour Auguste et pour Vespasien aussi. Donc des empereurs qui disent, voilà, on est bien les seuls à devoir condamner à mort d'anciens amis. Mais bon, voilà.
Il faut le faire.
Il faut le faire.
Oui, parce que, en revanche, une insensibilité complète de l'empereur est considérée comme le signe de la tyrannie, dites-vous, Sarare.
Alors, là, il faut toujours faire attention au filtre de nos sources, mais si on lit Tacite, par exemple, on verra que Néron reste souvent insensible à toutes les requêtes qu'il reçoit et même donc aux larmes qu'on verse devant lui, même quand une fille de sénateur qui témoigne d'une très juste émotion vient à lui et lui demande donc une grâce, bah ça ne marche pas. Bref, on comprend que Néron est un tyran.
Alors, il y a donc ces larmes des puissants, mais il y a aussi les larmes de la société tout entière, lorsqu'elle doit, par exemple, faire le deuil d'un des siens. Vous expliquez que le deuil à Rome, en particulier, n'est pas n'importe quel deuil, que si on est puissant, on traverse le forum avec son cortège de deuil, son cortège funèbre, et donc on est au vu et aux yeux de tous, et qu'il y a là évidemment des pleureuses professionnelles que l'on emploie pour pouvoir pleurer le mort, celui qui vient de disparaître, et que cela compte beaucoup dans la façon dont on gère le deuil à Rome.
Oui, en effet, les cérémonies funèbres romaines étaient des grands moments politiques, ça devait être du grand spectacle. On sortait pour l'occasion tous les bustes, les masques des ancêtres, parfois par centaines. On traversait toute la ville et tout ça se terminait par un grand discours prononcé au rostre, donc en plein cœur du forum, là où normalement on prononce des discours de politique générale. Et Polybe décrit avec beaucoup d'admiration, donc un observateur grec décrit avec beaucoup d'admiration cette pompe funèbre romaine, en disant qu'il y a là peut-être une clé du patriotisme romain, parce que voilà, on avait des cérémonies qui dépassait la mesure parfois, mais qui devait être tout à fait impressionnante à observer.
Dépasser la mesure, c'est un peu ce que l'on entend avec ce film sur les rites mortuaires de la région des Pouilles, enregistré par Cecilia Mangini. C'était en 1959, donc à la fin des années 50, Stendhali, donc avec un commentaire de Pier Paolo Pasolini, qui raconte justement, effectivement, enfin qui montre comment on peut pleurer les morts encore à la fin des années 50 dans le sud de l'Italie, ce qui peut rappeler quelque chose à l'historienne de la romantique que vous êtes.
Oui, ben, j'encourage tous les auditeurs à regarder ce documentaire de Cecilia Mangini qui se trouve assez facilement sur Internet. Et pour l'occasion, Cecilia Mangini, qui était donc documentariste et cinéaste, avait réuni plusieurs vieilles dames pleureuses, maîtrisant donc les lamentations funèbres, tout ça dans les Pouilles. Et ça donne voilà, un résultat qu'on imagine proche de ce qui a pu... Enfin, de ce que les pleureuses de l'Antiquité pouvaient produire elles-mêmes comme son.
Alors tout de même, quand on pleure, on ne pleure pas à la même façon tous ceux qui sont morts. On se pose la question de savoir si on doit pleurer un nourrisson, s'il a moins de 40 jours, ça n'est peut-être pas la peine de le pleurer, on ne sait pas très bien. On se demande si on pleure les hommes et les femmes de la même manière lorsqu'ils décèdent. Est-ce que l'on pleure un pauvre ou quelqu'un d'une classe plus favorisée de la même manière à Rome dans l'Antiquité, Sarah Ray?
Oui, les rites de deuil sont très très codifiés et alors il y a des taux de mortalité infantile tout à fait
impressionnant
oui dans la Rome antique, donc on ne sait pas toujours bien le sort qui était réservé en matière d'inhumation aux tout petits enfants. Certains visiblement ne sont pas dans les nécropoles ou dans les tombeaux familiaux, mais plutôt enterrés dans les maisons, parfois dans des amphores. Bon. Ensuite, hommes et femmes, alors, doivent être pleurés quand même dans les formes. Et là où on va avoir évidemment les plus grandes manifestations de douleur, c'est pour les empereurs.
Et leurs enfants ou leurs petits-enfants, comme cette maison carrée dont je ne savais pas qu'elle était à Nîmes, le temple à la mémoire des deux petits-enfants d'Auguste, Caius et Lucius, les princes de la jeunesse, justement, à qui on édifie un temple parce qu'ils sont morts et qu'ils devaient succéder à Auguste et qu'ils ne pourront pas.
Oui, Auguste a joué de malchance en matière de succession et à peu près tout... Tous ses successeurs potentiels, justement, sont morts les uns après les autres. Il leur a tous survécu malgré le sentiment qu'il avait de mourir d'un jour à l'autre à chaque fois, parce qu'il était un peu souffreteux, Auguste. Et c'est vrai que voilà, il y a eu toute une... Même dans les cités de l'Empire, et notamment à Pise, on a retrouvé des inscriptions qui disent que toute la population de cette colonie de Pise doit pleurer ses petits-enfants d'Auguste.
Alors, il y a une particularité, c'est la religion romaine. Alors, une religion qui est assez sévère, dites-vous, mais qui, là aussi, laisse une place aux larmes. Les religions dites orientales qui arrivent et qui sont, pour certaines d'entre elles, comme le culte de Cybèle ou d'Isis, beaucoup plus expansives en matière lacrymale. Et puis, une religion qui arrivera plus tard... la religion chrétienne, qui, chacune d'entre elles, ont un régime des larmes, pourrait-on dire, différent, Sarah Ray.
Oui, alors quand on observe, quand on lit les sources, on a l'impression qu'effectivement, ces religions dites orientales, hein, je mets beaucoup de guillemets, comme la religion d'Isis, font appel à une voilà peut-être plus grande émotivité que les rites de la religion traditionnelle romaine. Mais il faut faire attention avec ces catégories parce que finalement Isis est arrivée assez vite dans le panorama religieux romain. Le tout est que on sait très bien que les Isiaques, hein, les dévots d'Isis, pleuraient périodiquement en souvenir de la mort d'Osiris qui ensuite reprend vie, ressuscite en quelque sorte.
Et quand les chrétiens arrivent, ils se disent, mais il y a beaucoup de ces religions évidemment qu'ils repoussent et qu'ils ne veulent pas voir d'une certaine façon. Ils se disent, nous on a le droit de pleurer, mais pas pour les mêmes choses d'une certaine façon. Et en particulier, la mort ne nous touche pas de la même manière. C'est la conversion qui peut nous faire pleurer, par exemple. À partir du moment où on a découvert le vrai Dieu, eh bien on a le droit de pleurer. Mais la mort, non, puisque au bout du compte, c'est la vie éternelle qui nous y attend de l'autre côté.
Oui, il y a certains auteurs chrétiens, comme Jean Chrysostome, par exemple, qui s'en prend aux lamentations funèbres du paganisme, en disant que voilà, ça n'a aucun sens de pleurer la mort, puisqu'au contraire, c'est une libération qui se produit là. Mais les chrétiens, oui, vont avoir tendance à se réserver les larmes en se disant que eux seuls ont les bonnes larmes.
Et donc, ils vont avoir un autre régime lacrymal.
Oui. Alors, c'est une manière aussi un peu trop radicale de se distinguer des païens, mais ils disent que, par exemple, la prière en larmes est plus efficace, sauf que déjà, des païens pouvaient prier en larmes. Mmh. Donc, en fait, on a des continuités qui sont des vraies fausses continuités. Les chrétiens vont beaucoup se repentir, qu'on pense à saint Augustin en train de pleurer dans le jardin de Milan, mmh. par exemple. Donc, la contrition, c'est une grande attitude chrétienne. Et parfois, au contraire, réprimer leurs larmes, comme par exemple dans le martyr, hein, parce que le martyr, c'est quelque chose qui doit être accepté et presque joyeux.
Et donc cela, c'est ce qu'on trouve dans votre livre, Sarah Ray, Les larmes de Rome, sous-titré Le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité, qui vient tout juste de paraître chez Anna Moza et que je conseille à tous nos auditeurs pour pouvoir découvrir. On sait que l'histoire des sensibilités est en train de se développer de manière considérable dans le domaine de l'histoire et en particulier, on a découvert il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années le don des larmes au Moyen-Âge avec le très grand ouvrage de Piroš Kanaj qui avait travaillé avec Jacques Le Goff sur cette question-là, mais vous nous introduisez à une nouvelle période historique justement dans ce domaine, à savoir la Rome antique, et merci à vous.
Au cœur de la Mara, je serai ta pleureuse. Ça rigolera, je gindrai à cœur joie dans l'arène gauloise où le pathos s'agace. Ceux qui craignent de voir leur propre peine en face, je serai ta pleureuse. Dames, ou en consolateur, si tu y trouves ton compte, j'inonderai ton cœur. Et que le beau d'année.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumis, arc, geek, souffri, paysan. Red Coast. Arki. Pétroleuse.
Souffrée.
La fabrique de l'autre. Catherine de Coppet.
C'est l'heure de vous retrouver, Catherine de Coppet, pour votre chronique La fabrique de l'autre. Donc, bonjour.
Bonjour.
Votre chronique part toujours d'un mot qui désigne un groupe de gens et vous avez choisi aujourd'hui de vous intéresser aux Rohingyas, cette minorité musulmane au cœur d'une crise politique et humanitaire majeure aujourd'hui.
J'aurais pu parler de pleureuse, mais ça sera sans doute pour une autre chronique. Mmh. Alors, selon l'ONU, il serait aujourd'hui près de 380 000 à avoir quitté la Birmanie vers le Bangladesh pour fuir la répression orchestrée par l'armée birmane à leur encontre. Ce n'est pas la première fois que les Rohingyas font la une, puisqu'il y a à peine 4 ans, cette population avait déjà été contrainte à l'exil sous le coup d'une chasse à l'homme sans précédent, menée de façon organisée par des leaders nationalistes locaux, des moines bouddhistes extrémistes et le soutien du pouvoir central. Pour mieux comprendre cette crise, donc, il faut plonger dans l'histoire de cette population et de son nom, Rohingya. Le mot vient du bengali, il signifie « Arakan » et désigne une minorité musulmane qui vit dans cette région de l'Arakan. L'Arakan, c'est une zone côtière à l'ouest de la Birmanie, peuplée principalement par des bouddhistes. Mais il serait un peu rapide de résumer la question Rohingya à un conflit interreligieux, c'est un peu plus compliqué, car les bouddhistes de l'Arakan, qu'on appelle les Arakanais, n'ont jamais appartenu au groupe ethnique majoritaire de la Birmanie, bouddhistes également, les Bamars.
Alors ce détail est important pour la genèse de ce groupe, donc les Rohingyas, Catherine.
De fait, au XVIIIe siècle, la région de l'Arakan a été définitivement conquise par les royaumes birmans, en d'autres termes, par ces fameux Bamars. En raison de cette victoire, les relations entre Arakanais et Bamars n'ont jamais été simples. Une tension à laquelle contribue la position stratégique de l'Arakan, qui est une zone très riche en ressources naturelles. Passons maintenant à la présence musulmane dans la région. Les musulmans qui s'y sont installés venaient des empires indiens musulmans, avec lesquels il y a toujours eu beaucoup d'échanges. Et au XIXe siècle, la colonisation de la région par les Britanniques est venue intensifier cette présence musulmane avec l'arrivée de main-d'œuvre en provenance du Bengale voisin. Ainsi, au début du XXe siècle, les musulmans de l'Arakan se répartissent en deux groupes plus ou moins liés à leurs origines, les Kamans d'un côté et de l'autre les Bengalis, bien plus nombreux.
Et ce sont ces Bengalis qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont devenir des Rohingyas.
Alors j'insiste sur le fait que Bengali était le terme que ces musulmans utilisaient eux-mêmes pour se désigner au début du XXe siècle. Et selon le chercheur Martin Michalon, le premier usage du terme Rohingya date de 1936.
Ah oui, c'est relativement récent.
Voilà, mais il se popularise toujours chez ces mêmes musulmans seulement après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs raisons à cela. Pendant la guerre, Britanniques et Japonais se disputent la Birmanie, ce qui a polarisé la population de l'Arakan. Les musulmans se battaient du côté anglais, les bouddhistes du côté japonais. Première opposition. Ensuite, avec l'indépendance de la Birmanie en 1948, les combattants musulmans de l'Arakan demandent leur rattachement au Pakistan oriental, le Bangladesh actuel. Cette demande ne sera pas honorée et cela conduit ces musulmans à se défendre comme groupe à part entière au sein de la Birmanie. Dès lors, c'est là qu'ils commencent à se désigner comme Rohingya, une façon d'affirmer leur lien identitaire avec cette région de l'Arakan qu'ils habitent. L'arrivée des militaires au pouvoir en Birmanie en 1962 va signifier pour cette région de l'Arakan une montée des tensions entre communautés, car le pouvoir central veut imposer la domination de l'ethnie Bamar, ce qui est évidemment mal vécu par les Arakanais, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceux-ci vont alors se défendre en affirmant leur identité bouddhiste contre la minorité musulmane. C'est le début du processus de discrimination et d'exclusion des musulmans, et plus précisément des Rohingyas.
Alors cette discrimination va carrément être institutionnalisée, Catherine, par le pouvoir en 1982.
Une loi attribue alors la citoyenneté birmane à certains groupes ethniques seulement, en fonction de leur ancienneté dans le pays. Considérés par les militaires comme des migrants bengalis, les Rohingyas sont exclus de la loi et deviennent donc apatrides. Pardon, ni birman, ni bangladais. Commence alors pour cette population une longue série de déplacements forcés, portés par un sentiment anti-musulman croissant. Et dans les années 90, le mouvement bouddhiste extrémiste 969 sera le fer de lance du nationalisme birman et il va nourrir les fantasmes de la haine contre les Rohingyas et construira une véritable ségrégation à leur encontre. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur ce qu'ont traversé les Rohingyas ces 20 dernières années, je n'en ai pas le temps ici. Je terminerai en me focalisant de nouveau sur les mots, car la crise entre cette population et le gouvernement birman se joue aussi dans les termes utilisés. Rangoon refuse toujours d'employer le terme Rohingya, lui préférant celui de Bengali, une façon de renvoyer donc les Rohingyas à leurs origines soi-disant étrangères. Tout échange avec la communauté internationale, dès que le terme Rohingya est utilisé, est régulièrement menacé de boycott.
Merci beaucoup Catherine de nous avoir éclairé sur ce mot de Rohingya. Et on peut dire à nos auditeurs qu'il y a une page consacrée donc à votre chronique, la chronique de l'autre, la fabrique de l'autre, que l'on peut trouver à l'intérieur de la page de la fabrique de l'histoire sur le site de France Culture. Et ils auront tout intérêt à s'y rendre, comme d'ailleurs sur l'autre page, celle de la dernière séquence de cette émission d'aujourd'hui. C'était à la une. C'était à la une, c'est une émission en partenariat avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France et en hommage à la disparition de Daniel Darieux qui interprète une des victimes de Landru dans le film de 1963, signé par, ça y est, son nom m'échappe, par, ça y est, Chabrol, voilà. Eh bien, nous avons choisi de vous faire écouter la façon dont Colette, l'écrivain, racontait le procès Landru.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin, 8 novembre 1921. Voici Landru. C'est son entrée, et non celle des robes rouges et noires qui met un peu de gravité dans cette salle petite, dépourvue de majesté, où l'on parle haut et où on s'ennuie parce que la cour se fait attendre. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, 100 fois photographié, caricaturé, reconnu de tous, et différent pourtant de ceux que l'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crêpé, comme postiche. Mais cet homme maigre porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable qui nous rend tous circonspects. Un peu plus, j'écrivais « déférent ». Une femme, tête nue, derrière moi, chuchote « Il a vraiment l'air d'un monsieur ». Quel éloge ! Un journaliste affirme que Landru a une barbe de préparateur en pharmacie. Un dessinateur dit « Il est bien convenable, on jurerait un chef de rayon à la soie. La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50 noms, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà proté. Séduisant, ce séducteur ? Correct, certainement. Faunesque, verlénien, comme on l'a décrit ? Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence, qui sait l'amour. Pour ce qui est de la face, sa ressemblance évidente avec l'ancien député Secaldi, le Secaldi de Caillot, frappe et gêne un moment. Puis on l'oublie. On l'oublie quand on a vu l'œil de Landru. Je cherche en vain, dans cet œil profondément enchâssé, une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit aux fauves encagés. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. Si ce visage est frais, c'est qu'il a l'air, osseux mais normal, d'imiter parfaitement l'humanité, comme ces mannequins immobiles qui présentent les vêtements d'hommes aux vitrines. A-t-il tué ? N'a-t-il pas tué ? Nous ne sommes pas près de le savoir. Il écoute, il paraît écouter, l'interminable acte d'accusation débité sur un ton de messe triste qui fond le courage de tous les auditeurs. J'observe sa respiration, elle est lente, égale. Il extrait de son par-dessus noisette des papiers qu'il lit et annote et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s'il n'a pas tué. Colette.
Voilà pour cette dernière séquence de l'émission du jour. C'était à la une. Vous pouvez évidemment vous rendre sur le site Retro News pour lire l'intégralité de ce plaidoyer, ou plutôt ce reportage de Colette au procès Landru. Donc c'est sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Toutes les informations sur le site de France Culture à la page de la Fabrique de l'Histoire. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'histoire des jeunes filles. Oui, l'histoire des jeunes filles. Vous verrez ce dont il s'agit. Et donc, comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation de cette émission.